me permets une petite incursion dans cet épisode pour vous parler de mon prochain Weekend Mastermind les 15 et 16 juin prochains. Mon Weekend Mastermind, c'est quoi? C'est un événement unique en petit comité où je travaille avec une vingtaine de personal trainers, de propriétaires de studios, de box sur la croissance de leur business et l'augmentation de leur chiffre d'affaires. Deux jours en immersion complète pour vous partager de nouvelles stratégies marketing ou brainstormer avec d'autres professionnels et impacter positivement votre mindset et vos revenus. Vous repartirez de ces deux jours avec une motivation décuplée et un plan d'action en 90 jours. Pour en savoir plus, allez sur mon site andypoiron.com/programme ou cliquez sur le lien dans la description.
La recette, c'est pour moi, c'est toujours le contact client. Pour moi, aujourd'hui, il faut une bonne immersion de club. Il faut que ce soit un club qui soit beau, propre. Partez quelque chose de carré, bien évidemment. Mais au-delà de ça, je pense que un sourire, c'est peut-être bête, hein, mais je pense qu'on en revient un petit peu au principe de base. C'est-à-dire que je pense que le meilleur des sourires, la meilleure connexion, les yeux dans les yeux, et une belle écoute active, aujourd'hui, ça permet de vendre des abonnements, et ça en vend toujours. Ouais, c'est ce qu'on différencie aujourd'hui des bons clubs de sport et des clubs de sport très très bons, parce que derrière il y a des très très bons commerciaux et très très bien formés. Et aujourd'hui, si j'avais donné un conseil à des salles de sport, c'était d'engager et de s'engager concrètement dans de la formation et de l'accompagnement.
Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de EWAY, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box crossfit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Maxime Lecoing, consultant pour les clubs de fitness et notamment pour Fitness Park. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Max. L'importance de la vente dans un business. L'importance également de la relation client. Comment développer et lancer un club de fitness en partant de zéro. On parlait bien sûr de la franchise de club Fitness Park. On a parlé aussi de coaching, comment développer, structurer un business de coaching sportif et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Maxime. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Maxime Lecoing. Salut Maxime.
Salut, salut.
Est-ce que déjà, tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui?
Bien sûr, avec plaisir. Donc du coup, moi aujourd'hui, je suis consultant dans le milieu du fitness, voilà, et principalement dans les clubs Fitness Park. Voilà, donc aujourd'hui, j'accompagne des dirigeants du fitness, j'accompagne des district managers, des managers, jusqu'à des équipes commerciales. Et mon objectif, c'est travailler du coup les fameuses douleurs de l'entreprise et de rendre ces douleurs en point fort pour rendre des business non pas que rentables, mais prospères. Donc voilà, c'est ça mon dada.
Ok, et le Max tout petit, c'est qui?
Le Max tout petit? Ah bah écoute, de où je suis parti, c'est ça que tu veux savoir?
Ouais, comment tu t'es construit?
Je t'explique en toute transparence un petit peu mon parcours, qui est pas forcément, du moins, le parcours superbe du début. Écoute, moi, j'ai commencé, forcément, j'ai fait un bac économique et social.
Ouais.
Bon, okay. Une scolarité un petit peu difficile à partir du lycée. Voilà, donc j'ai raté mon bac et du coup j'ai repassé un bac et je l'ai eu du coup à la deuxième tentative. Ensuite, donc du coup, clairsemé vraiment un petit peu cette partie scolarité, pas tip top. Voilà, plutôt.
Tu savais plutôt ce agité. Que tu voulais faire ou t'as,
Pas
ou...
du tout, pas non. du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Non, non, je voulais aller dans le sport parce que j'ai toujours fait du sport depuis l'âge de 5 ans. Donc le sport, ça m'a toujours guidé. Je suis un ancien footballeur. Donc voilà, j'adorais le foot et je vivais le foot. Donc moi, je sortais de l'école, j'allais à la récréation, je faisais du foot. Je sortais de la maison, je faisais du foot. Au lieu de faire mes devoirs, je faisais du foot. Donc voilà, j'ai toujours fait du foot. Et puis après, je me suis blessé, j'ai changé de stratégie. Et du coup, parti au lycée, j'ai commencé la musculation. Donc depuis l'âge de 15 ans, j'ai commencé la musculation. Et du coup, j'ai raté mon bac. Et finalement, je me suis dit, tiens, pourquoi pas partir sur la partie coach sportif. Donc voilà, du coup, j'ai quitté la maison. Donc du coup, chez mes parents, je devais avoir l'âge de 19-20 ans. Donc je suis parti tout de chez mes parents. Je suis parti sur la région Bretagne. Donc moi, je suis d'Île-de-France. Donc j'ai vraiment tout quitté pour aller vivre cette aventure-là. Et du coup, voilà, je suis parti. J'ai repris du coup ce fameux BPJEP à l'époque. Donc il y a maintenant, il y a quelques années, parce que ça doit dater de 2012. Donc ouais, ça fait un petit bout de temps maintenant que j'ai eu. Et donc j'ai commencé à travailler sur un club. Donc voilà,
je sais pas comment si ça s'est passé le BPJEPS pour toi. Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as apprécié? Comment t'es sorti de là?
Alors j'ai beaucoup apprécié. C'était très intensif quand même à l'époque. C'était plutôt très intensif. J'ai beaucoup apprécié. Après, il y a ce que je regrette et ce que je vois aujourd'hui dans ce milieu aussi, c'est qu'on manque de formation sur la partie chef d'entreprise, business. Aujourd'hui, on nous vendait beaucoup des CDI à l'époque, quand on passait ce diplôme-là. Bon, aujourd'hui, que le milieu du fitness, il a beaucoup évolué, et finalement, la stratégie de formation n'a pas forcément évolué avec son temps. Voilà, c'est un petit peu le regard que j'ai aujourd'hui. Mais à l'époque, pour t'expliquer du coup, c'est que cette expérience était plutôt ratée, que j'ai eu mon diplôme, j'ai bossé un an, et voilà, je ne suis pas sûr, on peut être transparent, mais j'ai quelqu'un qui m'a un peu escroqué sur cette première année. Donc, mon premier travail, je n'étais pas payé déjà à ma juste valeur, je n'étais pas payé tout court de temps en temps. Et je gagnais 300 euros par mois à l'époque. Donc, j'ai vécu comme ça pendant 10 mois.
Et à l'époque, tu étais en CDI ou tu étais indépendant?
J'avais un CDI à 300 euros par mois, ouais. Et à l'époque, il n'y avait pas de club comme aujourd'hui. Je n'avais pas le permis. Donc déjà, c'était très compliqué financièrement. Donc forcément, beaucoup de doutes. Mais malgré tout, j'étais plutôt très apprécié par la clientèle. J'avais un fort relationnel.
Tu faisais quoi à l'intérieur? Tu faisais à la fois des cours et à la fois...
Exactement. Des cours non payés. Mais des cours et aussi également de la partie plateau. Donc voilà, m'assurer du règlement intérieur qui soit bien appliqué, des conseils, des programmes. Voilà, tout ça. Tout ça, je m'occupais également de l'accueil. Donc voilà, je m'occupais de tout ça et du coup j'ai dû quitter ce monde du fitness par besoin financier obligatoire, par besoin forcé et urgent de partir pour pouvoir bien évidemment ne serait-ce que vivre et pouvoir avoir un appartement et pouvoir payer ses factures. Et du coup je suis parti dans le monde du commerce moi après.
T'as pas voulu peut-être chercher justement un autre club ou autre? Non, t'as tellement
coup, été isolé. J'étais en province, j'étais isolé, j'avais pas de permis. Ouais. C'était très compliqué, il n'y avait pas de salle de sport, c'était que des indépendants, il n'y avait pas beaucoup non plus à l'époque. Okay. À l'époque, si tu reviens en 2012, il commençait à avoir des clubs, mais le problème, c'est qu'à l'époque, la musculation, c'était presque pas... Bah, personne ne faisait forcément de musculation. À l'époque, on était... c'était un peu stéréotypé, mais t'avais 30 cm de bras, t'étais un bodybuilder, quoi. Aujourd'hui, t'as plein de personnes qui s'entraînent. Voilà, donc il n'y avait pas l'affluence que t'as aujourd'hui, ni l'engagement, ni la motivation quand t'es dans une salle de sport. Et après, c'est vrai que c'était vraiment une question financière et cet échec de cet employeur qui fait que du coup, j'ai dû partir. J'ai dû très simplement prendre une décision, partir et du coup, me réfugier pendant une année dans un magasin pour vendre des baskets. Donc je vendais des baskets, mais mon objectif a toujours été de retourner bien évidemment de vivre de mon métier en coach sportif ou pas, mais du moins en salle de sport. Donc j'y suis retourné un an après, jour pour jour, j'ai réussi à retourner en tant que commercial. Donc je faisais commercial et coach sportif, et là enfin du coup j'ai retrouvé un épanouissement total et mes fameuses salles de sport qui m'avaient manqué. Donc voilà.
Et qu'est-ce qui fait que tu te tournes vers la partie commerciale du coup sur job, vente, la vente et autres?
Écoute, j'ai vu que je vendais plutôt pas mal les baskets. Donc du coup, quand on m'a proposé un job de commercial plus coach sportif en salle de sport, c'est plutôt l'attrait à la revenir à la salle de sport qui m'a motivé. Et j'ai allié du coup ces deux côtés-là, donc coaching sportif et commercial. Après, la partie commerciale, finalement, s'est démarquée plus par son côté challenge, son côté voilà, soif d'aller gagner plus, soif de rendre peut-être heureux les personnes que j'inscrivais, de pouvoir créer ces fameux déclics dans leur tête, de dire tiens, cette personne-là elle m'a aidé grâce à elle, je me suis inscrit grâce à elle, bah, je perds mes fameux kilos, ou grâce à elle, j'ai pu retrouver un corps. Et après, le milieu du coaching sportif, je l'ai délaissé au fur et à mesure, par principe, je pense, d'évolution possible, parce que j'ai pu évoluer très très rapidement, parce que j'ai eu que 10 mois d'expérience en tant que commercial en salle de sport, et j'ai pu prendre directement une ouverture de club, je devais avoir 22 ans, le premier club dont j'ai été responsable, que j'ai pu lancer. Mais j'ai délaissé cette partie coaching sportif, je pense, plus par une question de pouvoir évoluer sur la partie business. Voilà, donc notre stratégie de vocation, quoi.
Et cette partie commerciale, comment t'es amené justement à... C'était inné, tu t'es documenté, t'as fait des formations, t'as senti que quelque chose qui te plaisait naturellement. Comment ça s'est
passé? Franchement, en toute honnêteté, je suis plutôt un autodidacte. À part un bac, c'est pas là où j'ai appris à vendre. Plutôt un autodidacte. Après, je pense que j'ai un excellent relationnel. J'arrive très très facilement à donner confiance à mes clients, à mes partenaires. Et puis, je suis un challenger aussi. Donc, je suis quelqu'un qui a un challenger. Je suis quelqu'un qui voit des défis partout, qui a envie de les réaliser, qui a envie un petit peu. J'irai pas de se montrer, mais de dire tiens, je peux être le meilleur. Voilà, on va dire que ça, c'est un petit peu la quête d'être toujours meilleur, une meilleure version de soi-même. Et ça, je l'ai cultivé avec le temps. J'ai cultivé aussi grâce à mon employeur que j'ai eu pendant 10 ans. Cet employeur-là, voilà, qui est un employeur qui sont de quatre dirigeants qui sont bien évidemment, je suis très reconnaissant, qui m'ont énormément formé aussi, qui sont des personnes, on va dire, strictes dans le sens où on s'engage à ce que Maxime tu réussisses. Donc en fait, c'est tout ça, en fait, c'est cette culture plus du business où j'ai été formaté plus sur la culture business, la partie commerciale, la partie challenge. Et vu que c'était déjà dans mon âme, que en tant que sportif, je voulais déjà être le meilleur, je voulais déjà être un peu sur le devant de la scène et montrer que je pouvais tout décrocher. Et du coup, c'est ça qui fait que j'ai été galvanisé, en fait, motivé dans ce sens-là, et qui fait qu'aujourd'hui, ça a payé, quoi. Voilà.
Qu'est-ce que tu as appris sur cette année en étant commercial dans le club? C'est quoi les
première année, qu'est-ce que j'ai appris? Quand j'ai fait ma première année en tant que commercial, ce qui m'a surpris surtout, je sais pas si c'est la réponse que tu attends, mais c'est l'engouement des salles de sport. Donc ça, on remonte il y a du coup maintenant 11 ans. C'est cet engouement sport à vouloir adhérer à une salle de sport. Voilà, parce que c'était tout nouveau. Adhérer à une salle de sport, quitte à malheureusement, avant des abonnements, les gens achètent, mais ne fréquentent pas forcément, mais se dire tiens, moi aussi j'ai envie d'avoir ma carte. C'est à la mode. J'ai envie d'avoir cette carte, c'est tout nouveau. Et se dire que surtout, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, presque 100% des êtres humains ont une problématique. Là, je m'en suis rendu compte, je me suis dit c'est fou, quoi. On a l'impression que tout le monde se sent bien dans sa peau. Et puis finalement, on se rend compte que quand on étudie son client ou son prospect, on se rend compte que finalement, chaque personne aujourd'hui a une problématique et que je me devais, en fait, de résoudre cette problématique via mon script de vente, via ma méthode de vente. En fait, c'était ça. C'est de me dire, punaise, c'est fou parce que je peux gagner de l'argent et en plus, je peux rendre heureux les gens. Tu vois, c'est vraiment ça, en fait, qui m'a motivé et qui me motive d'ailleurs toujours différemment, du coup. Mais c'est surtout ça qui m'a surpris, en fait. Et de me dire, finalement, l'être humain, je suis en train d'apprendre à le connaître par maturité, par l'âge aussi, par le travail, de travailler aussi. Et du coup, j'ai appris du coup à apprendre de l'être humain, à apprendre de l'être humain et de ses problématiques. Voilà.
Et du coup, qu'est-ce que tu as appris de l'être humain? Quelle piste tu pourrais donner pour les personnels traîneurs, les managers qui nous écoutent?
Ce que je pourrais leur donner comme conseil? Un vrai conseil, déjà de croire en soi, c'est un bon conseil d'avoir une vision de ses objectifs à long terme et de passer à l'action. Voilà, avant de se dire qu'est-ce que je vais mettre en place, c'est de passer à l'action et de se dire que on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre et que l'être humain aujourd'hui, je pense que si auquel cas on prend le temps avec les gens, on prend le temps d'échanger, on prend le temps de discuter, on prend le temps de savoir ce qu'ils font dans leur vie. Parce que c'est très important de prendre le temps de connaître leurs problématiques, de prendre le temps de trouver des solutions pour eux, de les accompagner. De prendre ce temps-là, je pense que ça crée quand même un sentiment de réciprocité et que demain, je m'en suis rendu compte que de par cette facilité de faire se relationner naturellement parce que j'aime les gens aussi, parce que j'aime les gens, je le fais naturellement parce que je les aime, aujourd'hui, ça m'a apporté ce que ça m'a apporté. Et si je n'avais pas été aussi proche de mes clients il y a 10 ans, aujourd'hui, je ne serais pas arrivé où je suis aujourd'hui. Je ne serais jamais arrivé. Et je m'en rends compte tous les jours. Tous les jours, aujourd'hui, j'ai des opportunités. Tous les jours, toutes les semaines, presque toutes les 4 heures, j'ai une opportunité aujourd'hui parce que pendant 10 ans, je me suis mis à écouter naturellement les personnes, à être authentique et sincère et à vouloir les comprendre et les accompagner, même au-delà de mon métier de commercial. Voilà, c'est ça que je dirais aujourd'hui aux managers, aux districts, aux dirigeants de fitness, ou même, j'ai envie de vous dire, je pense que Andy, c'est même voilà pour tous les métiers. Mais aujourd'hui, il faut s'intéresser sincèrement aux personnes, il faut les accompagner, il faut être sincère avec eux. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce que demain l'avenir peut nous apporter, on ne sait pas ce que demain cette personne peut nous apporter aussi. Et je pense que demain, si on est transparent, sincère, authentique avec ces personnes-là, demain, elles pourront nous rendre beaucoup plus. Même 10 ans après, on peut avoir des opportunités avec des gens qu'on a rencontrés, qu'on a inscrits en salle de sport. Je le confirme par expérience. Donc voilà, ça, c'est vraiment ce que je conseille, c'est de savoir réseauter aussi, qui est important. Réseauter, le réseautage, c'est très, très important. Et de savoir, du coup, être proche de ses prospects et de ses clients. Et ne pas voir la valeur de l'argent dans son prospect, et de voir plutôt qui se cache derrière cette personne-là et comment je vais pouvoir l'aider. Et ensuite, bien évidemment, l'inscrire.
Ok. Et ce poste de commercial, c'était quoi? C'était dans un club franchisé? C'était dans un indépendant?
Dans un club franchisé, ouais. Fitness Park, qui possédait, alors aujourd'hui, ils en possèdent encore 16 en France, mais également en Espagne. C'est le plus gros groupe aujourd'hui franchisé en France encore actuellement, et ils en ont monté plus d'une trentaine. Donc voilà, donc du coup, j'ai travaillé pour le plus gros franchisé Fitness Park en France.
Et du coup, comment on devient responsable d'un club à 22 ans? C'est quoi les missions? C'est quoi les objectifs? Comment tu t'y es pris?
Eh ben, écoute, les missions, déjà, c'est la grosse responsabilité, déjà, surtout à cet âge-là. Parce que mon premier club que j'ai ouvert, c'était dans une zone, on va dire, plus ou moins difficile. Voilà, plus ou moins difficile au niveau de l'emplacement. Donc du coup, pour moi, c'était un sacré challenge. Donc la mission, c'est une mission complète. Hein. T'as les clés, puis il faut que tu fasses vivre ce business. Donc il faut t'assurer de la fidélisation des clients, t'assurer d'atteindre tes objectifs, t'assurer que tes équipes soient formées, t'assurer que le club vit bien, qu'il soit sain, qu'il soit propre. Et aussi, tu répondes aussi aux objets, que tu répondes surtout à la marque, aux exigences. Voilà, donc ça, c'est très important aussi, parce que quand tu es dans une franchise, tu as aussi les exigences de la marque. Donc, les exigences en termes d'audit, qualité. Donc, voilà, il y a tout ça aussi à y répondre. Et j'ai envie de te dire que moi, j'ai été très formé presque comme un chef d'entreprise. C'est-à-dire que, voilà, Max, tu as ce club, c'est ton club. Et tu dois faire en sorte que ce club, ça soit un bijou et que ça soit comme chez toi. Donc, c'est comme ça que j'ai été formé. Donc, voilà.
Et comment ça se passe, du coup?
Bah, ça s'est très très bien passé, hein. Ça a très très bien passé. Ce premier club-là, je l'ai monté à 7500 adhérents dans 800 mètres carrés. Donc j'ai fait un carton. J'ai fait un carton dans ce club, donc ça m'a valu beaucoup d'éloges aussi. Et ça m'a permis d'avoir une forte croissance professionnelle. Du coup, après, ça s'est jamais arrêté. Donc du coup, ça a un beau carton, une belle équipe. Ça m'a créé des amis aussi forcément sur l'avenir. Voilà, après, ça a été un club qui a été vendu après par la marque, et la marque l'a racheté. Voilà, ce club, c'est un club français, mais du coup, qui a été racheté par la marque. Mais du coup, ça a été vraiment un succès. Ça a été un succès, ce club.
Et comment tu peux expliquer avec le recul ce succès-là? Qu'est-ce que tu as mis en place pour qu'il y ait le succès attendu?
Alors, ce que j'ai mis en place, déjà, c'est une ambiance. Déjà, une ambiance saine, donc ça c'est très très important, une ambiance challengeante.
Pour ceux qui ne connaissent pas le modèle Fitness Park, est-ce que tu peux le rappeler du coup?
Du coup, c'est un modèle business entre le premium et le low cost. Aujourd'hui, Fitness Park n'est plus considéré comme du low cost, qu'on est à 30 euros par mois. On est Basic Fit, c'est plus comparé du coup forcément à un modèle low cost. voilà, on est entre les deux parce qu'aujourd'hui, on vend aussi, ce modèle vend aussi des options premium. Voilà, ce qui permet aussi d'augmenter le panier moyen de ces ventes d'abonnements, parce qu'aujourd'hui, ce Fitness Park se situe un panier moyen environ à 30 euros. Donc okay. Voilà, donc du coup.
C'est quoi les offres premium que vous vendez sur un supplément?
Alors, ils vendent, donc du coup, Fitness Park vend de l'hydromassage. Donc, c'est un lit hydromassant qui permet du coup de se relaxer après chaque séance. Vend de la partie aussi avec des plateformes oscillantes. On a aussi également des concepts comme le Burning Park. Le Fight Park, voilà, donc des cours de MMA, des cours de boxe, on a également des grands espaces cross-training, voilà, donc on a plein d'espaces, plein de parties additionnelles, on a également notre boisson sportive aussi, donc voilà, tout ça c'est un service additionnel, un service premium qu'on offre en fait en tant que cadeau pour faire essayer aux adhérents, pour qu'ils aient une immersion en fait totale, un peu plus hype, qui est un simple club à 30 euros. Donc voilà, donc du coup, on permet aussi de capter aussi une certaine clientèle différente aussi également qui recherche peut-être plus que de simples belles machines de qualité avec de beaux écrans tactiles. Donc voilà, c'est aussi ça, Fitness Park aujourd'hui, c'est un modèle qui a su évoluer avec son temps et qui propose aujourd'hui une immersion totalement différente et bien meilleure qu'elle l'a été il y a 10 ans. Donc voilà.
Okay. Et suite à ce succès, alors comment ça se passe pour toi? Quelle est l'évolution pour arriver du coup à manager, à faire ce métier de consultant?
Eh ben écoute, l'ascension pour moi, c'est qu'après j'ai pu évoluer sur deux clubs, donc j'ai été responsable sur deux clubs. Et ensuite, j'ai eu diverses missions de reprise de clubs qui allaient plus ou moins bien dans l'objectif de booster la rentabilité. J'ai eu la chance que ça fonctionne à chaque fois, donc j'ai pu ouvrir aussi des clubs. J'ai fait plus de 10 ouvertures Fitness Park en tant que salarié, et j'ai pu toucher à presque peut-être 20-25 clubs en tant que salarié. Donc voilà, tout ça sur du coup presque 10 ans. Donc ça a énormément bougé. J'ai aussi pu lancer et créer, parce que j'ai eu un poste en tant que formateur sur du coup ce groupe de franchisés avec tous ces clubs. Donc je me suis occupé aussi également d'organiser des séminaires de formation, voilà, pour les commerciaux, pour les managers. Tout ça aussi également, ça m'a apporté une grosse expérience. De par mon succès, du coup, forcément, ça m'a apporté ça aussi. J'ai pu avoir cette partie-là et ce challenge aussi qui a été réussi. Et j'ai aussi une grosse expérience en tant que directeur commercial sur 18 sites. Donc voilà, okay. Ça m'a apporté aussi une énorme expérience là-dessus. Et de bout en bout, passer des années suite à de la demande, forcément j'ai dû prendre mon envol par la suite. Donc voilà.
C'est quoi les recettes pour vendre un abonnement de fitness aujourd'hui en 2024, là où on tourne cet épisode?
Les recettes avec tous les clubs de sport qu'on a aujourd'hui, d'accord, parce que maintenant il y a quand même quasi un club tous les 2 kilomètres. Moi, je dirais que la recette, c'est tout. Pour moi, c'est toujours le contact client. Pour moi, aujourd'hui, il faut une bonne immersion de club. Il faut que ce soit un club qui soit beau, propre, partait quelque chose de carré, bien évidemment. Mais au-delà de ça, je pense que un sourire, c'est peut-être bête, hein, mais je pense qu'on en revient un petit peu au principe de base. C'est-à-dire que je pense que le meilleur des sourires, la meilleure connexion, les yeux dans les yeux, et une belle écoute active aujourd'hui, ça permet de vendre des abonnements, et ça en vend toujours. Ouais, c'est ce qu'on différencie aujourd'hui des bons clubs de sport et des clubs de sport très très bons, parce que derrière il y a des très très bons commerciaux et très très bien formés. Et aujourd'hui, si j'avais donné un conseil à des salles de sport, ça serait d'engager et de s'engager concrètement dans de la formation et de l'accompagnement. Voilà.
Ok. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé, forcément, il n'y avait pas tout l'univers qu'il y avait avant. J'ai aussi eu la casquette de commercial dans des fitness. Il y avait aussi des clubs où j'ai été où il n'y avait pas de commercial. Bon, je suppose que toi, ton leitmotiv, c'est tu trouves ça normal qu'il y ait des commerciaux dans les clubs de fitness pour vendre des abonnements. Qu'est-ce que tu dirais aux clubs de fitness qui n'ont pas encore de service commercial, même les plus petites, on va dire, structures? Pourquoi c'est intéressant d'avoir un commercial dans son business?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que si on parle de ça, c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de salles de sport aussi qui mettent des coachs. coach sportif aux accueils. Je pense que ça aussi, tu voulais peut-être en venir là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, soit c'est des dirigeants, soit c'est des coachs sportifs, soit c'est des commerciaux. Aujourd'hui, il faut savoir que... Alors, je vais être mitigé sur ma réponse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il s'avère, et je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs sportifs. Beaucoup. Aujourd'hui, il y a même le CQP qui arrive. Pourquoi ? Parce qu'on voit très bien aussi que les coachs sportifs aujourd'hui, alors apparemment, d'après ça, serait 2 ans, 3 ans dans une salle de sport, ça changerait de métier. Parce qu'aujourd'hui, ils ne savent pas vendre. Ils ne savent pas vendre parce que du coup, la formation ne s'est pas adaptée. Aussi également, n'est pas adaptée, que ce soit en CQP, que ce soit en BPJF, n'est pas adaptée vraiment au business du coach sportif. Et aujourd'hui, le problème, c'est que on le voit, les salles de sport qui ont des coachs sportifs aux accueils, bah, sensiblement à 99%, eh ben, ils ne savent pas vendre des abonnements parce que le métier de coach sportif ne les apprend pas à vendre. Voilà. Donc aujourd'hui, à partir de là, il faut se diriger vers des commerciaux. Mais des commerciaux, pareil, il va falloir leur apprendre à vendre parce qu'on n'est pas commercial forcément si facilement que ça. Ouais, moi, j'ai connu des personnes qui n'avaient pas vocation à vendre et c'est devenu des flèches. Voilà. Après, il y a quand même certains skills à avoir, quand même certaines qualités à avoir, bien évidemment, pour être un excellent commercial, et certaines sont innées aussi, mais on peut toujours travailler la partie vente avec quelqu'un qui forcément est débutant, donc ça c'est possible. Mais aujourd'hui, voilà, même un dirigeant, aujourd'hui un chef d'entreprise, ok, il peut avoir monté une boîte parce que peut-être qu'il a de l'argent, il a monté des affaires et il monte une structure, mais c'est pas pour ça qu'il sait vendre aussi à des accueils. Donc je pense que c'est important aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise, de savoir faire la part des choses. Il y a certains métiers pour moi qui sont obligatoires à avoir en France. D'accord, parce que par exemple aux États-Unis on vend beaucoup sur les tablettes, il y a presque pas d'accueil, mais en France on le voit aujourd'hui que le principe à l'américaine ça fonctionne pas ici chez nous. Les gens veulent des accueils, ils veulent du sourire, ils veulent des écoutes, ils veulent pouvoir se renseigner, ils veulent pouvoir poser toutes les questions du monde. Et aujourd'hui si t'as pas de commerciaux dans ton club de sport, et encore ils sont pas formés aussi, puisque mettre des commerciaux qui doivent, mais c'est pas intéressant, commerciaux formés, et que il y a un contrôle de formation toutes les semaines, un contrôle de formation, un suivi. Voilà, des roleplay, des jeux de rôle, tous les 4 matins, presque jusqu'à temps que ce soit parfait. On les enregistre, on les filme, on regarde, et tout ça avec un mentor, quelqu'un qui s'y connaît, qui a de l'expérience. C'est comme ça qu'on va vendre des abonnements de sport. Que tu sois à 100€ par mois, à 500€ par mois, que tu sois à 30€, peu importe le prix, finalement, les gens sont prêts à t'acheter. C'est derrière, bah, t'es sympa, t'es cool, t'es professionnel, et que tu sais comment amener et parvenir du coup à tes fins pour le succès de ton club. Et voilà. Donc moi, j'engage et je motive tous les chefs d'entreprise qui nous écouteront à mettre des commerciaux dans leur salle de sport.
Est-ce que tu sais la part de vente en ligne, du coup, pour les fitness
ça, par ça dépend des clubs aussi, forcément, ça diverge suivant les zones. Te donner un chiffre, là, comme ça, c'est compliqué d'être précis. Ça peut être entre 20% et peut-être 50%.
Ah ouais, quand même. Okay.
Ouais, okay. Ouais. Il faut savoir que plus on avance dans le temps, quand même, plus la digitalisation prend quand même de la place dans les ventes. Voilà, donc ça, bien évidemment, c'est quelque chose.
Bon, après, tout dépend aussi, voilà, du pricing. C'est clair que je pense que plus un produit, un service est cher, plus on a besoin de contact humain, ou en tout cas rassurer du coup la personne. Et c'est vrai que entre je prends un abonnement à 30€ par mois, ou je vends un accompagnement de coaching à 500 000€ par mois, voilà, les objections sont plus les mêmes, quoi.
Bien sûr, ça c'est sûr, je confirme.
Excellent. Et du coup, toi, comment tu arrives pourquoi tu développes ce que tu développes aujourd'hui? Quelles sont les choses que tu as pu voir et tu t'es dit, tiens, il y aurait une opportunité pour moi, pour accompagner les clubs?
Alors, écoute, en fait, c'est suite à, on va dire, un petit peu la notoriété que j'ai eue dans cette marque, qui fait que déjà, je me suis lancé. D'accord. Et puis aussi par soif de challenge, de changement, parce que je suis quelqu'un qui peut vite m'ennuyer. Donc j'ai besoin de changement, j'ai besoin de challenge. Je suis quelqu'un, voilà, j'ai la bougeotte. Hein. J'ai la bougeotte, j'ai besoin d'avoir des défis, j'ai besoin de réfléchir. Et si je réfléchis pas, c'est pas bon pour moi. Donc voilà. Donc en fait, si tu veux, l'opportunité, elle s'est créée toute seule. Elle s'est créée parce que j'ai eu de la demande. C'est pour ça que l'opportunité s'est créée. Voilà. C'est ce qui a fait que ça m'a poussé à me lancer. Voilà, c'est principalement ça. Et puis parce que c'est peut-être bête, mais peut-être avec du recul, je me dis que quand j'ai commencé ma vie professionnelle, j'ai pas eu quelqu'un, comment je pourrais dire ça, j'ai pas eu quelqu'un sur qui je pouvais vraiment me reposer pour me dire, tiens, Maxime, viens, je te prends par la main et je t'explique comment réussir dans ta vie, t'accompagner et voilà, avoir une certaine forme de réussite et d'atteindre tes objectifs. Et du coup, quelque part, je pense que ce que j'ai vécu dans mon début de carrière, j'aimerais pas que certains aient cette mauvaise expérience. Et je me dis qu'aujourd'hui, ce que je fais, finalement, c'est bien. C'est bien, c'est beau, parce que du coup, j'améliore le confort de vie aussi des dirigeants. Je leur permets aussi peut-être de voyager, d'avoir moins de stress, de mieux dormir la nuit. Parce qu'en fait, c'est ça que moi, je vends réellement. C'est une vraie valeur ajoutée que j'apporte aux dirigeants, bien plus que des KPI qui évoluent. Et en fait, si tu veux, je me dis qu'en fait, aujourd'hui, ce métier, je le fais parce que j'ai envie d'aider les autres, vraiment sincèrement. J'ai envie d'aider les autres parce que à l'époque, j'ai pas été aidé. J'ai pas été dans ce sens-là. Et je pense que j'étais peut-être pas loin, peut-être de, je sais pas, peut-être de rester là où j'étais, peut-être. Si j'avais pas eu ce déclic, je pense que je serais encore là-bas il y a 12 ans en arrière. Voilà, donc je sais pas ce que j'aurais fait de ma vie. Donc du coup, voilà, donc aujourd'hui je me positionne un petit peu, j'essaie d'inspirer comme je peux avec ma réussite que j'ai. Voilà, elle est propre à moi, j'en suis fier aussi, il faut être aussi sincère et savoir se dire voilà et se féliciter aussi. Bien évidemment que certains ont des réussites qui sont bien plus grosses que la mienne, mais je suis quand même fier de là où je suis arrivé par rapport à là où j'ai commencé, parce que je suis parti de rien. Mine de rien. Et aujourd'hui, j'ai cette envie de montrer que ce soit avec les jeunes avec qui je travaille, ces commerciaux qui sont quand même plutôt jeunes, ces managers, ou que ce soit même des dirigeants qui ont 5 ans, 60 ans, qui pourraient être mon père, hein, mais de leur dire que voilà, je peux les aider, je peux les accompagner et ça fonctionne. Surtout ça, c'est que ça fonctionne.
Donc, quand tu fais des audits dans les clubs, c'est quoi les 3 plus grosses erreurs que tu rencontres la plupart du temps?
La gestion administrative. Déjà, la gestion administrative qui est généralement absente.
La gestion administrative, ça va de quoi à quoi?
On parle de plus de partie process. Et partie process, ça n'existe pas.
CRM, une chose comme ça?
Exactement. Pas de procédure, ou alors procédure non efficiente. Donc,
pas de fiche contact, pas de relance, tout ça.
Exactement, ça existe encore ça aussi. En effet, pas de relance, pas de fiche contact. Ou même des principes de base, par exemple des confirmations de rendez-vous, des choses comme ça qui sont pas mises en place, des certains B.A.B.A. de la vente, mais aussi de la partie gestion, la gestion financière aussi, peut-être certains services consommés pas forcément intéressants, pour essayer voilà de sous-traiter à X, alors que finalement avec une bonne formation ton commercial il peut le faire, tu peux le responsabiliser, tu peux le rendre autonome, tu peux le rendre plus épanoui et le former, tu vois, externaliser certaines choses qui pourraient être faites par des commerciaux et des managers. Ça, pour moi, c'est aussi également un gros défaut que je vois et que je rencontre. Et c'est certain que j'ai pu rencontrer aussi. Mais voilà, les principales erreurs, c'est l'absence de process, l'absence de formation. D'accord? Et finalement, le manque aussi peut-être, le manque de recul. Le manque de recul sur son entreprise. Voilà, la tête dans le guidon. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu es dans la boîte toute la journée et t'en sors pas et tu vois plus rien. C'est comme si tu faisais un tour de club, il y a plein de papiers par terre, mais tellement tu es dedans, tu vois plus que les papiers sont par terre. Donc tu les ramasses pas. Donc du coup, tu les laisses traîner, ça s'accumule et finalement, t'as une grosse fuite dans ton business.
Et donc, les patrons de club viennent te voir quand c'est la merde ou ils sont proactifs?
Écoute,
ils disent il faut que je fasse quelque chose avant que ça devienne de la merde.
Écoute, vu que moi c'est plutôt dans les débuts, j'ai envie de te dire que bien évidemment ils viennent me voir parce que c'est peut-être compliqué. Voilà, parce que c'est peut-être compliqué. Pour l'instant, j'ai pas quelqu'un qui est venu me voir parce que c'est vraiment la crise. Mais ils viennent me voir parce qu'en effet c'est compliqué et que la concurrence aussi grandissante et que on peut plus se permettre en fait d'attendre. Donc aujourd'hui je retrouve quand même des dirigeants qui passent à l'action, du moins aujourd'hui avec ceux avec qui je travaille, c'est vraiment des personnes qui passent à l'action, c'est-à-dire que ils ont conscience qu'il y a une amélioration à faire et du coup ils sont vraiment prêts à investir pour avoir du résultat. Voilà, ils sont vraiment prêts à prendre ce recul et à investir. Donc voilà pour aujourd'hui les clients que j'ai actuellement. C'est vraiment des personnes d'action. Voilà.
Pour les coachs sportifs qui nous écoutent, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Parce que bon, pour parler à énormément de coachs chaque année, la problématique de la vente, c'en est une notamment. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil par rapport à ça? Pour eux qui puissent vendre leur accompagnement. Hormis le fait, effectivement, que tu nous as dit que, et je pense que c'est un des éléments importants, c'est l'écoute de la personne qui est en face de nous. Est-ce que tu aurais d'autres choses à nous partager de ce côté-là?
Alors déjà, je leur demanderais d'augmenter leur prix. déjà, de plus vendre à 50 euros. Je leur dirais de vendre à 80 minimum, déjà. Et je dirais même pas ça, je dirais de changer leur formule de vente. Je leur demanderais de justement vendre des accompagnements et non pas vendre des séances. Vendre un réel accompagnement. Donc, quand je parle d'accompagnement, je partirais au moins sur des formules à l'année, déjà, pour pouvoir faire de la trésor, parce que c'est compliqué de vendre des coachings sportifs tous les 4 matins et de faire 70 heures par semaine et de se dire que peut-être demain, il faut que je reparte de zéro. Donc, déjà, de réfléchir à leur formule d'accompagnement, de réfléchir aussi à leur prix. Et également, surtout, si j'avais un vrai conseil à donner, aujourd'hui, je pense que si je devais refaire mon métier de coach sportif, c'est que je ne vendrais pas un coaching sportif. Donc, je vendrais en effet un accompagnement, mais il faut une valeur ajoutée au coaché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donner des conseils, encadrer une séance, c'est bien. D'accord? Mais si tu n'as pas, alors c'est peut-être bête, hein, mais si tu n'as pas moins 10% chez le coiffeur du coach, si tu n'as pas moins 10% c'est au spa pour te faire masser, si tu n'as pas moins 10% chez un fameux kiné sportif, si tu n'as pas le moins 10% chez un ostéopathe inclus dans ta formule d'accompagnement, pour moi, tu as un coach standard. Donc, c'est-à-dire que si demain, j'avais à refaire le coach sportif, j'irais démarcher des partenaires, je me ferais une super carte partenaire et je vendrais un super accompagnement de malade mental avec tous ces petits plus. Et en fait, le fait de consommer tous ces petits plus à l'année, qu'est-ce qui se passe? Ça rembourserait mes coachings. Et en fait, je ferais comprendre que de vendre mon accompagnement, finalement, si tu consommes mes partenaires, tu ne payes pas tes coachings. Et en fait, je pense que tu pourrais faire facilement 100 000 euros à l'année en faisant ce système-là. Et je pense que ce serait que 2 mois de travail à réaliser, ce serait un travail de fond qui prendrait à peine 2 mois, en sachant que moi, j'ai fait un gros travail sur le B2B, donc ça m'a énormément apporté. J'ai fait beaucoup de B2B pour le Fitness Park et j'ai fait un gros carton là-dessus en autodidacte. Donc, j'ai vu ce que ça m'a apporté et aujourd'hui, je transmettrai cette expérience-là du coup à des coachs sportifs. Je leur demanderai de travailler leur formule et pas que leur prix du coup. Augmenter leur prix parce que derrière, il y a une armada de partenaires. Voilà.
Excellent. Moi, je suis aussi dans cette philosophie de façon aujourd'hui d'accompagnement. Aujourd'hui, pour moi, le coach sportif qui prescrit que des exercices. Voilà, l'application le fait beaucoup mieux que nous. Notre téléphone est beaucoup plus performant. Et aujourd'hui, il faut être bien plus qu'un coach. C'est pour ça que le mot coach sportif, pour moi, aujourd'hui, il est assez réducteur, parce que si on se base que sur le deuxième mot, le mot sport, pour moi, il faut englober beaucoup plus que la partie sportive pour avoir un réel impact dans la vie des gens. Au niveau business, finance, choses comme ça, qu'est-ce que, par rapport à ton expérience, par rapport aux erreurs que tu as pu voir fréquemment, ce sont lesquelles?
Au niveau business, au niveau finance, justement, peut-être...
Sur les clubs, là, sur les clubs aujourd'hui, c'est encore de la vente, vente mensuelle, vente annuelle, qu'est-ce que tu...
Non, c'est de la vente. Alors, tu as de la vente mensuelle et tu as de la vente annuelle. Tu as les deux. Après, la question, je ne sais pas si du coup j'ai bien comprise, mais si tu me parles en termes business, en termes finance, est-ce qu'il y a eu des erreurs que je remarque? Les erreurs que je remarque, en fait, finalement, c'est peut-être que certains privilégient peut-être de faire des rénovations. C'est bien, hein, faire des rénovations, mais peut-être que l'investissement. C'est plus intéressant déjà de le mettre dans les équipes. Tu vois, un investissement dans la formation, je pense qu'aujourd'hui, c'est primordial. Je pense que vraiment, c'est primordial. Quand on prend aujourd'hui, par exemple, des clubs indépendants, je sais que pour certains, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a des grosses structures qui ouvrent et on a de moins en moins de clubs de fitness indépendants. Alors oui, peut-être que bah, du coup, il y a l'impact financier ou du moins le pouvoir financier peut-être plus compliqué aussi également pour ces personnes-là. Donc peut-être qu'ils ont plus de mal à rénover. Mais si demain, ils avaient un investissement à faire, en effet, je pense qu'ils ont trop oublié justement ce qu'on disait tout à l'heure, la partie commerciale et la partie gestion est tellement importante. Et aujourd'hui, je pense qu'ils devraient se retourner vers des personnes qui pourraient les aider en ce sens-là pour pouvoir survivre et vivre de leur activité. Et je pense qu'aujourd'hui, du coup, ils sont trop dans le passé, ils sont trop dans l'ancien modèle. Et malheureusement, avec des grosses chaînes comme celle-ci qui arrivent, Basic Fit, Honor, Fitness Park, One Fitness, enfin, il y a tellement de chaînes qui arrivent, tellement de concurrents qui arrivent qu'aujourd'hui, ce qui différencie, c'est aussi OK, l'expérience client, qui est très, très importante aussi. Mais cette expérience client passe d'abord non pas que par l'attractivité du club, mais aussi par l'attractivité du commercial, qui est encore une fois la queue.
C'est quoi les meilleures stratégies aujourd'hui en 2024 pour aller chercher des nouveaux membres dans un fitness?
Écoute, avec la part du gâteau qui se sépare et qui se découpe, pour moi, la vraie valeur ajoutée aujourd'hui, c'est de la partie B2B. Aujourd'hui, c'est-à-dire que le B2C aujourd'hui, c'est plus suffisant. Il faut revenir un petit peu à l'ancienne aussi sur ça. Il faut pouvoir marketer auprès des entreprises et pouvoir démarcher. Il faut avoir le sens de la négociation. Et ça, j'ai pu du coup l'expérimenter moi de mon côté. Donc, c'est la valeur ajoutée aujourd'hui, c'est la partie que toute entreprise, que tout club de fitness doit aujourd'hui se pencher sur 2024. Et la partie digitalisation, bien évidemment, la partie réseaux sociaux, qui est très très importante. Aujourd'hui, un club sans réseaux sociaux, pour moi, c'est un club qui est mort. Et déjà, c'est un club qui va mourir, qui est déjà mort. Mais la partie entreprise aujourd'hui est très très importante parce que ne serait-ce que être associé à un gros groupe, à une grosse entreprise, ça renforce aussi l'image de marque et la confiance de nos prospects. Et aussi également, il faut savoir que forcément, il y a des salariés et qu'aujourd'hui, le sport en entreprise, c'est quelque chose qui commence à se développer parce que je l'ai développé moi à titre perso avec une ancienne entreprise pendant un an et demi où du coup, je faisais du sport en entreprise, je vendais des prestations. Sport en entreprise, où je mettais des coachs sur place, etc. Donc ça, j'ai vu également qu'il y a un vrai essor aussi là-dessus, il y a un vrai budget de la part des entreprises. Et aujourd'hui, je pense que c'est primordial, ça peut même être une vente additionnelle d'un club de fitness. On pourrait très bien, un club de fitness, vendre des cours de sport, prendre des personnes entraîneurs et d'aller leur donner du business dans des entreprises et de faire payer des prestations et de récupérer de l'argent pour le coach, ok, mais aussi pour la salle de sport. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire aujourd'hui et on revient un petit peu à nos moutons sur la négociation, on revient un peu à l'ancienne. Il y a la partie digitalisation qui est très importante, on l'a dit, ça peut représenter 20-50% suivant peut-être les marques aussi qui se digitalisent de vente en ligne, mais il y a aussi la partie terrain qui est très 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 importante. Et le B2B aujourd'hui, c'est un oublié pour moi. C'est un oublié en France, du moins, c'est un oublié en France. Alors que quand on va à Dubaï, il y a une salle de sport dans chaque entreprise. Voilà, donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui où on va avancer de plus en plus sur ce point-là et je pense que ça, c'est l'avenir. Je pense qu'aujourd'hui, un club de
comment
sport.
Comment tu fais pour aller chercher les entreprises et leur expliquer le projet, que tu sois un patron de club ou un personal trainer? Comment tu fais pour aller? Parce que le plus difficile, c'est de trouver la bonne personne qui va porter le message.
On revient à ce que j'ai dit tout au début. Dans nos échanges, on revient au relationnel. Ouais. Donc, où est-ce qu'il travaille? Déjà, savoir où est-ce qu'il travaille. Si tu ne sais pas où est-ce qu'il travaille, tu peux pas savoir. Donc, où est-ce qu'il travaille? Voilà, il travaille ici, super. Qu'est-ce qu'il y fait? Quel métier il y fait? S'intéresser vraiment à lui. Et puis, à partir de là, ça nous permet d'aller chercher le contact. Du coup, c'est ton client qui va chercher le contact. Voilà, donc après, bien évidemment, tu peux lui apporter peut-être une valeur ajoutée. Je sais pas, si auquel cas, bah écoute, tu me ramènes à contact, bah il y a un petit cadeau au bout. Tu vois, tu peux très bien récompenser aussi dans ce sens-là. Mais dans l'idée, si t'es sympa avec lui, il n'y a pas besoin de cadeau, il va aller te chercher ton contact et il va t'apporter du business. Voilà, donc dans l'idée, la première chose que je pourrais donner comme conseil, c'est encore une fois, fais une pause dans ta vie, regarde autour de toi et va échanger avec les gens. Va savoir, essaie de savoir ce qu'ils font dans la vie, essaie de savoir si tu peux pas leur apporter, s'ils peuvent pas t'apporter. Et finalement, je pense qu'aujourd'hui, même si on enlève la structure du fitness, si on parle juste de la vie de tous les jours, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui sait se vendre, quelqu'un qui a un fort côté relationnel qui sait se vendre, je pense qu'aujourd'hui, ce sera toujours quelqu'un qui sera dépatouillé dans la vie aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, la vente, c'est pas le métier le plus important. c'est le skill le plus important à avoir dans ta vie, tu vois. Si tu l'as pas, je pense que, je dis pas que t'es raté, hein, mais si tu l'as pas, je te conseille vivement de faire une formation et une bonne formation pour l'avoir. Donc,
surtout qu'on on vend tous les jours et à tout le monde, quoi. Que ce soit à ma femme, que ce soit à mes enfants, il faut que je leur vende le fait que, etc. Donc, c'est vrai que ce que tu dis, j'avais entendu ça ou lu ça dans un bouquin et effectivement, dans la vie, c'est sûr qu'à un moment donné, t'es voué à essayer de négocier du mieux possible.
Exactement. Et puis ça peut nous faire des partenaires, on peut s'entraider, ça nous permet d'augmenter notre pouvoir d'achat aussi, personnellement parlant, au-delà du business. Hein. Ah, il y a un sophasiste, il te fait une petite remise parce que tu t'entends bien avec lui. Toi, et tu lui fais quelque chose sur ta prestation aussi, tu peux faire un petit quelque chose sur ta prestation. Et le but, en fait, c'est de s'entraider, quoi. C'est de pouvoir s'entraider, c'est de
prendre un peu fondamental. En France, on n'a pas cette mentalité que je retrouve chez les Anglo-Saxons où en fait chaque connexion en fait c'est un moyen de se dire ah tiens mais comment on pourrait faire du business ensemble, tu vois, alors que je pense que ouais. Et c'est ce que je dis moi aux coachs où on a un gros travail à faire personnellement entre nous parce que on pourrait se vendre les programmes des uns et des autres en fonction des spécialités de chacun et ça manque encore tout ça. J'espère que à force d'en parler, à force qu'il y ait d'autres personnes aussi qui en parlent, on arrive justement à créer des synergies. J'ai beaucoup aimé ton idée aussi sur des partenaires hors fitness ou autre. Et je pense que c'est ça. Je pense que chez nous, on n'est pas assez de ce côté-là, soit par peur, soit par on se dit tiens, il vient me prendre pour un fou. Alors que je pense que c'est win-win quoi. Et ça servirait. Servirait à la personne.
Ouais, parce que je pense qu'aujourd'hui en France, si tu sors un petit peu du lot, si tu déranges, tu sors un petit peu des standards. Je pense qu'aujourd'hui tu déranges en France et c'est dommage. Mais moi, j'essaie de cultiver ça tous les jours. Hier, j'avais un commercial que j'ai vu et un manager récemment et on a mangé ensemble. J'essaie de leur apporter ça, leur faire comprendre que on peut tous s'entraider. Moi, quand je vais sur un club ou quand je récupère un nouveau client, je sais que le commercial peut sûrement m'apporter. C'est pas parce qu'aujourd'hui il est commercial, il peut pas m'apporter. Il peut m'apporter sa vision des choses, il peut m'apporter peut-être une technique que j'ai pas, il peut m'apporter son vécu, il peut m'apporter plein de choses. Et je pense qu'en effet, c'est un mindset à avoir, c'est de se dire que déjà, t'es pas parfait, le meilleur des meilleurs, ça n'existe pas. Voilà, et que tu peux apprendre de tous. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu n'es pas prêt à avoir ce mindset de te dire, tiens, je peux toujours apprendre des autres, et que je suis prêt à investir même sur de la formation pour toujours évoluer, être à la pointe de la technologie dans mon métier, être à la pointe de l'innovation dans mon métier, être à la pointe tout court de mon expérience, je pense que c'est presque abruti. C'est méchant, mais pour être transparent, je pense que c'est presque abruti de se dire, tiens, j'ai rien à apprendre de personne. Je suis déjà bon et c'est comme ça. Moi, je pense que ces gens-là, c'est les premiers qui vont se casser la tronche.
Ils sont morts avec leurs idées ou en restant sur leurs idées, malheureusement.
C'est ça. Donc, je pense qu'encore une fois, le relationnel, c'est tellement important et je le cultive tous les jours. Et je vois tout ce que ça m'apporte que j'engage vraiment à mon petit niveau. Hein. J'engage vraiment les gens à faire d'eux-mêmes et à un peu enlever leurs œillères, écouter, ouvrir bien leurs oreilles et de s'intéresser vraiment aux personnes. Mais sincèrement, après, il faut aimer le faire. Il faut aimer le faire aussi, il faut aimer les gens. Hein. Certaines personnes, je peux comprendre, n'aiment pas forcément échanger, n'aiment pas discuter. Ils aiment bien être dans leur coin, c'est leur choix, je le respecte totalement. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un gros frein pour évoluer personnellement, professionnellement parlant, dans la vie. Donc, j'engage vraiment les personnes
à faire la même chose. C'est sûr. Si t'aimes pas les gens et que tu es, enfin ce que je dis au coach, vous êtes dans un métier de service, un métier d'humain. Si vous n'aimez pas les gens, effectivement, ça va être compliqué. Autant être sur un ordi, être programmeur ou faire de l'IA ou des choses comme ça, mais c'est sûr que c'est peut-être pas le bon métier. Du coup, si on n'aime pas trop les gens. J'ai une question parce que qui revient souvent. Et du coup, toi, tu es plus expert sur la partie vente. Ouais, on dit j'ai envoyé un email et puis un SMS à mon prospect, il me répond pas, donc j'ai arrêté et j'ai arrêté de l'appeler ou autre et je l'ai perdu. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Parce que souvent, la plupart des coachs, au bout d'un contact ou un refus ou simplement La personne n'a pas répondu. Bon, bah, il balance le coordonnées de la alors, personne et puis il passe à autre chose.
Alors déjà, s'il ne te répond pas, c'est peut-être qu'il ne peut pas te répondre. Donc déjà, c'est ce que je lui dirais. Mets-toi à la place de ton prospect. Hein. Moi, des fois, ça m'arrive de ne pas répondre parce que bah, je l'ai lu et puis finalement, j'ai eu une urgence. J'ai quelque chose qui s'est passé dans ma vie qui fait que c'est plus important que ton message. Donc déjà, il faut penser à ça aussi. Donc déjà, la première chose que je lui dirais, du coup, c'est bah, de ne pas lâcher. Donc déjà, ça va être de le rappeler un autre jour. Donc je lui dirais tester de le rappeler le matin, de tester de le rappeler en début d'après-midi, de tester de le rappeler peut-être en soirée. Tu vois, donc déjà, c'est le premier conseil que je donnerais. Moi, je conseillerais d'appeler jusqu'à 7 fois, 7 ou 8 fois. Alors, peut-être pas dans le même mois, mais voilà, de le rappeler, par exemple, sur 2 mois, 4 fois au mois de février, 4 fois au mois de mars. Et puis, dans 3 mois, je retente, 4 fois au mois de juillet, 4 fois au mois d'août. Et puis, tiens, je vais faire une newsletter. Et puis, cette newsletter, ça va un petit peu lui rappeler ce dont pourquoi il m'a parlé au début et sur sa problématique. Et puis, je vais lui envoyer. Et puis, peut-être que ça va lui faire un déclic. Dans 3 mois, et puis peut-être que ça va ressusciter le besoin, et peut-être qu'à ce moment-là, ben, dire, tiens, ben, finalement, je vais le recontacter parce que ça m'intéresse. Donc, voilà, c'est ce que je ferais, tu vois. Je pense que je ferais une création du newsletter, et je pense que si j'ai plus de nouvelles après 8 calls, et après, par exemple, 2 SMS, j'apporterai plus de valeur à mon prospect, donc j'apporterai, je sais pas, un e-book où j'apporterai une newsletter, ou alors je lui dirais que peut-être bah, j'ai un cadeau, tu vois, un cadeau pour lui, qu'il n'hésite pas à me contacter, puis s'il y a une prestation achetée, il y a un cadeau avec, tu vois, quelque chose. Et je pense que je partirais sur ça. Mais par contre, je lui dirais vraiment de ne pas lâcher, parce que voilà, il ne faut pas lâcher. Après, la question, c'est pourquoi il ne te répond pas aussi. S'il ne te répond pas et que tu as fait tout ça, peut-être parce qu'il y a quelque chose que tu as mal fait aussi. Donc aussi, je lui dirais aussi de se remettre en question. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné? Pourquoi il te répond pas? Voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Je pense qu'aujourd'hui, un coach sportif, quand quelqu'un te dit non, ça peut être bien de lui dire, écoute, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui fait que aujourd'hui je me dis non? Est-ce que c'est moi? Est-ce qu'il y a peut-être des choses que je fais mal? Donc ça aussi, c'est important aussi d'avoir des propres feedbacks de ses prospects, peut-être, ou de ses clients. Tu vois, demain, tu peux avoir un client pendant 3 mois, et puis au bout de 3 mois, il t'arrête. Mais pourquoi il arrête? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il déménage? Ou est-ce que c'est vraiment parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que t'as pas réussi à le retenir? Donc, c'est d'être dans la, bah, être vraiment dans l'âme d'un chef d'entreprise, c'est toujours d'anticiper, de se remettre en question, d'avoir un coup d'avance sur tout ça,
de travailler. Non, mais ça, c'est tellement important ce que tu dis, dans le sens où, c'est pas parce que, aujourd'hui, là, on est en février, fin février, début mars, que si la personne n'a pas acheté aujourd'hui, qu'elle n'achète pas effectivement dans 6 mois. Par contre, si effectivement, elle n'est plus dans ton radar, dans ton champ de perception, bah, elle va oublier, puis elle va aller voir un autre truc, et puis ça se trouve, c'est l'autre coach ou l'autre club qui va prendre le deal. Et le fait de créer, voilà, du contenu, le fait d'avoir une newsletter, bah, en fait, tu enclenches le fait que bah tiens, Max, peut-être que là il va avoir le déclic en regardant, je sais pas, un magazine ou en ayant une discussion avec son pote, il va se dire, tiens, ouais, il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, le premier nom qu'il doit avoir en tête, c'est effectivement, ah oui, putain, le coach, il m'envoie là régulièrement, il faut que j'aille revoir. Et du coup, c'est peut-être l'opportunité de. Et du coup, voilà, c'est un peu, je mets l'image de Coca qui fait encore de la publicité, parce que voilà, c'est du matraquage. Et voilà, quand on pense une boisson gazeuse cola, bah, on pense forcément à Coca. Et c'est un peu ce qu'on doit essayer de faire. Peut-être pas, on n'a pas les mêmes moyens que Coca, mais à notre échelle, que ce soit coach ou qu'on ait un club de fitness, avoir cette récurrence dans la communication qui fait qu'à un moment donné, ça doit être une évidence si la personne veut passer à l'action, quoi.
Et peut-être, ouais, que je pense que du coup, une fiche contact, un mail, un numéro de téléphone, un réseau social du prospect, c'est important. Pour moi, il faut aller sur les 3 canaux. Et si j'avais un autre truc à dire, ça revient encore un petit peu à la façon de penser. C'est-à-dire qu'il faut que le coach, il dise une chose, c'est que lui, je sais comment il va réagir. C'est comme un commercial, il va se dire, mais Max, excuse-moi, il va me dire, ouais, mais Max, j'ai l'impression de déranger. J'ose pas, j'ai l'impression de déranger. Et à chaque fois, je lui dis, mais écoute, tu penses que tu le déranges en quoi? Bah, écoute, je la refais, là, c'est déjà 2 fois que je l'appelle, il me répondra. Mais ok, tu te rappelles pourquoi il est venu te voir? Oui, je me rappelle, il est venu parce qu'il n'avait pas confiance en lui, ou du moins il a perdu sa confiance parce qu'il avait pris 20 kilos et il ne se sentait pas bien dans sa peau. Ok. Et donc du coup, tu penses que c'est de déranger de l'appeler pour l'aider? Vu comme ça, ok, non. Ok, bah, tu vas l'appeler jusqu'à temps qu'il te décroche. C'est ce que je leur dis aux équipes. Donc voilà, tu vas l'appeler et tu ne vas pas le lâcher. Et voilà, tu vas respecter les lois, bien sûr. Je crois que c'est 4 calls par mois maximum pour un prospect en France. Mais tu ne vas pas le lâcher quand même. Tu peux aller jusqu'au 4. Et tu retenteras le mois prochain. Voilà, jusqu'à temps que tu as un répondeur tout court parce qu'il a bloqué ton numéro. Mais voilà, pour moi, il ne faut pas lâcher. Et on se rend compte qu'en fait, généralement, à 7 fois ou à 8 fois, finalement, la personne décroche. En fait, on s'en rend compte. Parce que moi, j'avais fait des stats quand je m'embêtais un peu. Des fois, je fais des stats comme ça. Et je me rendais compte que finalement, passer des 7 calls, généralement, ça match. Les gens décrochent. Enfin, les gens décrochent. Après, il y a des petites techniques. Si c'est la première fois que tu l'appelles, moi, je fais la petite technique un petit peu stress marketing. C'est-à-dire que j'appelle une fois, d'accord, j'appelle une fois, je laisse 3-4 secondes de sonnerie, je raccroche et je rappelle. Donc ça crée l'urgence aussi. Et généralement, bah, quand on le fait, si on le fait en test, c'est vrai que c'est dérangeant, mais c'est bizarre, je rappelle deux fois. Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est que c'est forcément pas important. Donc du coup, on arrive à avoir un décrochage. Ce que je dis à mes commerciaux, ça les aide à avoir beaucoup plus de décrochage. Voilà.
Moi, j'ai compris une fois où effectivement, je sais plus comment ça s'était passé, mais j'avais envoyé plusieurs trucs, et puis un jour, j'envoie un mail un peu pourri et tout, et en fait, le mec me contacte et j'ai signé un contrat de 6 000 à l'année, et on a travaillé 3 ans ensemble. Donc tu vois, c'est comme tu dis, on n'est pas à un email ou à un SMS ou un coup de téléphone près de valider effectivement un nouveau client qui peut être intéressant pour nous, quoi.
Exactement.
Toi qui connais bien l'environnement Fitness Park, le coaching, c'est le personal training, c'est développé, comment c'est mis en place? Est-ce qu'il y a des opportunités pour les coachs qui nous écoutent d'aller dans ces clubs-là?
Eh ben écoute, c'est en cours de développement, très sincèrement. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui sont coachs sportifs, je sais pas, en région parisienne ou dans le Grand Est, qui sont intéressés à me contacter comme ça, je peux leur avoir des opportunités. Donc en effet, c'est un gros développement, et en effet, on recherche, notamment avec les clients que j'ai, on recherche beaucoup de personnel trainer. Bien évidemment, ça cartonne déjà, pour leur dire que c'est une belle opportunité parce que ça cartonne. Ça fait déjà quand même plusieurs années, moi, que je les mets en place avec mes premiers franchisés quand j'étais salarié. Ils sont aujourd'hui encore mes clients. Ça marche super bien. Ça marche très, 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 très bien. Les coachs gagnent très, très bien leur vie. On est sur des loyers qui sont quand même beaucoup plus attractifs que certains concurrents. Il faut le savoir. On donne la chance sur le premier mois, voire le deuxième mois, pour leur donner la chance de pouvoir rentrer de la trésorerie et non pas les assassiner tout de suite avec un loyer. Donc voilà, on essaie de faire les choses bien chez Fitness Park, suivant bien évidemment les franchises. Hein. Enfin, les franchisés, hein, ça dépend comment on fonctionne. Mais voilà, moi, je pars beaucoup sur apporter l'opportunité et vraiment de les aider en ce sens à ce qu'ils réussissent. Donc voilà, donc pour tous ceux qui sont intéressés, si jamais tu en as, en région parisienne, je recherche. Dans le Grand Est aussi, je recherche. Et pourquoi pas de d'autres régions, je peux potentiellement faire ta mise en relation. Mais en effet, on recherche et ça marche très très fort. Très très fort. Et d'ailleurs, on a certains qui sont là depuis 4 ans. Pour certains clubs, c'est lancé depuis 4 ans. On les a toujours, ils sont toujours présents et ils vivent de leur activité. Aujourd'hui, pleinement.
Et le modèle, du coup, pour rentrer, c'est quoi? Ça fonctionne un peu comme le modèle Basic Fit où il y a un head trainer et c'est lui qui chapeaute, ou comment ça fonctionne?
Non, franchement, en toute honnêteté, je pense qu'il y a 1% de clubs où il y a un head trainer aujourd'hui. Okay. Il y a vraiment tout à développer. Hein. Et là, aujourd'hui, on est vraiment plus sur un premier step. C'est un recrutement.
Il va falloir qu'on discute ensemble, alors.
exactement. Mais non, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et comme je te dis, il y a des clubs aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas à trouver de personnel trainer. C'est quand même incroyable. Alors qu'on a des opportunités, il n'y a personne. Donc, je me dis qu'on aurait un PT, mais il pourrait exploser. Quoi. Mais on ne trouve pas. On ne trouve pas, ou alors ils sont déjà chez des concurrents où ils payent des loyers à 700 €. Et je me dis, mais c'est cool parce que nous, on propose 2,5 fois moins cher. Tu vois, on leur propose vraiment d'essayer de vivre de leurs activités, de leur donner l'opportunité. Et franchement, oui, si tu as des personnes et des petits qui sont intéressés, il ne faut surtout pas hésiter parce qu'aujourd'hui, on est vraiment en recherche active. Et aujourd'hui, j'ai des zones en Ile-de-France où on n'a aucun petit, on ne trouve pas de petit. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est dommage. Voilà, on recherche activement, et même peut-être que voilà, certains confrères seraient peut-être intéressés à ce que si tu as des contacts, je pourrais potentiellement faire de la mise en relation. Mais oui, on cherche des personnes traînantes.
Ok. Voilà. C'est quoi ta vision, toi, du fitness dans les 5 à 10 ans à venir? Comment tu vois notre milieu qui a été bon, qui a eu des difficultés, il y a eu pas mal d'escroqueries. Enfin, moi, quand j'ai commencé, il y a eu des trucs un peu dans les années 90-2000. Il y a eu la Covid qui a fait du mal aussi. Mais bon, il y a le côté aussi santé. Les gens ont besoin de bouger. Comment tu vois les choses, toi, par rapport à tout ça?
En France, tu veux dire?
Ou en France, et puis ta vision globale, toi, par rapport à ça?
Moi, je vois le fitness en France dans les 5 années à venir. Allez, dans les 5 années à venir, je pense que ça va être ultra concurrentiel. Je pense qu'il n'y a que les gros qui resteront. Je pense qu'il y a certains gros qui vont tenter d'arriver, mais qui ne tiendront pas dans le temps, parce que je pense que les business models sont trop compliqués, des clubs qui sont potentiellement trop chers et qui ne fonctionneront pas, mais après, c'est que mon avis. Et je pense que il y a vraiment une vraie guerre de fitness, parce qu'aujourd'hui il y a une vraie guerre de locaux aussi. Donc aujourd'hui c'est celui qui a le plus d'argent qui peut ouvrir. C'est vraiment ça en ce moment. On est vraiment là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, forcément, s'il y a plus de fitness, plus d'acteurs sur le marché, forcément la part du gâteau se divise. Donc on va avoir moins en moins de prospects. Donc qui dit moins de prospects dit forcément besoin de plus d'accompagnement et besoin d'être encore meilleur. Donc voilà, c'est aussi pour ça aussi que je me suis lancé dans mon business. C'est parce qu'aujourd'hui, je peux aider les clubs et je sais qu'il y en aura besoin de plus en plus de mon aide. Donc c'est pour ça aussi que je fais ce métier aussi, forcément, parce que je sais que j'ai tout intérêt à m'être lancé et je pense que je me suis lancé au bon moment. Donc voilà.
Excellent. Est-ce que tu as une ressource à nous partager, un livre que tu donnes ou que tu préconises aux commerciaux ou à des patrons de clubs ou des podcasts ou des ressources, quelle que soit la ressource qui peut nous aider à améliorer
dans le fitness?
Pas forcément.
Ce que je recommanderais, alors enfin rien à voir, hein, je vais citer un nom. Je suis beaucoup Franck Nicolas, moi. Voilà, donc j'inciterai tout le monde à acheter, pourquoi pas, ces formations. Voilà. Ou même, voilà, moi je vais participer au Weekend Spark, là, du coup, au mois de mai. Voilà, donc c'est 3 jours intenses. J'ai eu l'opportunité, du coup, d'y participer. Et voilà, donc j'ai hâte de le faire. Apparemment, il y a vraiment un avant-après. Mais voilà, je dirais plus. Donc j'écoute beaucoup, voilà, podcast. Je suis beaucoup cette personne.
Pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu le Anthony Robbins.
Ouais, voilà. Exactement. Donc du coup, voilà, lire pourquoi pas aussi des. Alors je lis pas forcément de livres. Moi, je suis plus podcast. En effet, j'écoute un peu tout. Je te dirais que je scrolle. Tu vois, je scrolle et j'écoute. Tu vois, j'ai pas forcément, à part ce monsieur-là que j'écoute beaucoup, j'ai pas forcément de livres forcément à recommander, tu vois. Même si j'en ai lu quelques-uns, je suis plus podcast, je suis plus, tout ce qui est motivation, tout ce qui est mindset, écouter les réussites des entrepreneurs, tu vois, m'inspirer des gens qui m'entourent, parce qu'aujourd'hui, je travaille avec des personnes qui sont quand même plutôt tous des grands entrepreneurs, donc je m'inspire beaucoup des gens comme ça. Donc voilà, je suis plus sur le relationnel, tu vois, que sur la partie réseaux sociaux, tout ça. Je préfère aller dîner avec un entrepreneur et échanger, tu vois. J'apprendrai beaucoup plus que sur un livre. Après, c'est ma manière de penser, tu vois. Mais voilà, donc j'irai toujours, on en revient encore, parce que c'est peut-être mon truc, mais on en revient encore avec l'échange de l'être humain, tu vois. Je préfère aller payer une bouffe avec quelqu'un que j'ai peut-être vu dans une salle de sport. Il m'a payé un labo et puis je vais aller lui dire, bah tiens, tu m'as dit que tu travaillais là, ça m'intéresse. Tu vois, on a fait des liens, j'ai montré quelques machines, pourquoi pas, quelques exercices. Bah tiens, ça ne te dit pas qu'on aille boire un café, puis tu m'expliques un peu ce que tu fais dans la vie, tu vois, c'est des choses bêtes. Puis tu te rends compte que je l'ai déjà fait plusieurs fois, et puis finalement, en fait, tu apprends beaucoup plus que moi, je pense, que dans un livre, parce que tu transmets, et la transmission d'informations est beaucoup plus captivante, je pense, avec un être humain. Donc voilà, donc Franck Nicolas, et je scrolle sur les réseaux sociaux et j'essaie de motiver de personnes inspirantes. Jeff Bezos, tout ça, voilà. Je dis pas qu'un jour je serai avec moi-même parce que ça va être compliqué, mais.
Ah, tu mets la barre très haute, mais bon.
Forcément, j'ai des rêves et des objectifs, donc je compte bien les attendre avant mes 40 ans. Donc voilà.
et du coup, alors, où est-ce que tu veux aller, toi, Maxime, avec ça, ou dans quelle direction tu veux aller? C'est quoi
Moi, mon objectif, c'est d'investir dans le monde du fitness. J'ai toujours eu ça en moi et je compte faire cette année, j'espère. Je compte le faire cette année. Donc voilà, tout en investissant et tout en du coup accompagnant les personnes issues du fitness. Et bien évidemment, du coup, ça, mon objectif de vie, c'est ça. L'objectif de vie, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir pallier les deux, c'est de pouvoir investir dans des salles de sport, mais également aussi pouvoir les accompagner, d'être encore plus proche de mes clients et d'avoir une expérience qui est peut-être encore différente de celle que j'ai aujourd'hui, même si déjà, je suis déjà 100% ancré dans le milieu. Mais voilà, c'est vraiment ça mes objectifs, c'est de pouvoir vivre de ça à 100% grâce aussi à mes investissements. Voilà, même si aujourd'hui, mon activité fonctionne très très bien. Mais le but, c'est que derrière, il faut investir aussi. Donc voilà, c'est mon objectif.
Comment on peut faire pour te contacter s'il y a des patrons de club qui sont intéressés?
Directement, du coup, sur LinkedIn. Directement sur LinkedIn, c'est le moyen le plus simple. Donc, le moyen le plus simple sur LinkedIn.
Je mettrai le lien de toute façon dans la description. Voilà. Eh bien, merci. En tout cas, c'était super, super intéressant, super enrichissant. Un dernier petit mot à partager à ceux qui nous écoutent encore.
Eh ben, écoute, il y a une citation qui dit seul on va vite, ensemble on va plus loin. Eh ben, moi, je dirais que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin et plus vite. Donc voilà, pensez toujours à vous entourer des personnes qui vous tirent vers le haut. Et de savoir sortir les personnes qui vous sont toxiques et vous tirent vers le bas. Donc voilà. Donc je conseillerais de faire un pause dans sa vie, de regarder autour de soi et de récupérer et de garder les personnes les plus importantes et surtout celles qui vous apportent réellement soit un confort, soit le fait d'être heureux dans sa vie, soit le fait de pouvoir gagner de l'argent, soit le fait d'avoir des opportunités. Et le reste, je pense que il faut savoir tracer son chemin et se libérer de ces personnes-là. En tout cas, moi, je l'ai fait, ça m'a apporté. Donc, du coup, je conseillerais ça et de croire en soi. Voilà, croire en soi et ne pas hésiter à se faire former pour prendre confiance en soi. Et je pense que tout le monde peut réussir. Il suffit juste d'avoir l'envie de passer à l'action. Et généralement, c'est ce qui manque, c'est le passage à l'action. Donc, pose une date dans ton calendrier, mets une date et fais tout pour atteindre cet objectif à cette date-là. C'est comme ça qu'il faut passer à l'action. Tant que tu n'as pas posé de date, tu ne passes pas à l'action. Donc, pose ta date et travaille dessus. Donc, voilà. C'est le conseil que je donnerais.
Eh bien, top. Bon message de fin, en tout cas. Merci, merci beaucoup. Merci à tous. N'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles et un super commentaire à Maxime. Merci, Maxime. Au plaisir de se rencontrer lors d'un événement. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. Merci à tous.
Merci à toi.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.